Au rythme du parc, une émission dédiée aux actualités du parc naturel régional du Vercors, une émission financée par le parc et diffusée sur Radio Diwa, Radio Royan, Radio Dragon, News FM et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDIWA 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Au rythme du parc, une émission qui sera consacrée aujourd'hui aux prairies fleuries. Pour aborder ce sujet, Monsieur Langlois, chargé de mission en agriculture à la maison du parc. Monsieur Langlois, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être commencer par nous expliquer l'intérêt des prairies fleuries, en particulier sur le parc du Vercors.
Alors, l'intérêt de ces prairies fleuries dans un parc naturel régional, c'est qu'on est sur une notion de transversalité entre l'activité agricole, qui est une activité avant tout économique, et puis la biodiversité, qui est une des missions d'un parc naturel régional qui se vaut de la préserver au maximum. Et ces prairies fleuries sont bien sur cette notion transversale entre les deux disciplines, d'où son intérêt et d'où le travail que l'on effectue sur le territoire du parc.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour entretenir cette biodiversité que vous appelez de vos voeux ?
D'abord, qu'est-ce qu'une prairie fleurie ? Une prairie fleurie, c'est une prairie utilisée par des éleveurs, mais qui est riche en fleurs, et en fleurs que tout public peut voir, c'est-à-dire qu'il y a des orchidées, il peut y avoir de la sauge, il peut y avoir des marguerites, mais il y a aussi du sainfoin, qui a une valeur alimentaire intéressante pour les troupeaux, il peut y avoir des trèfles, des gesses, des vesses, enfin voilà, tout un tas de fleurs, donc, et ce sont des prairies naturelles, ça veut dire qu'elles ne sont pas semées, ou si elles ont été semées il y a très très longtemps. Mais la plupart n'ont jamais été semées, donc on dit des prairies naturelles parce que toute la flore qu'il y a dessus pousse naturellement et revient annuellement. Et donc si elles sont fleuries, c'est que les pratiques des éleveurs permettent à ce qu'elles soient fleuries tous les ans. Donc nous, l'intérêt au niveau du parc du Vercors, c'est de faire en sorte à ce que ces prairies naturelles fleuries demeurent et qu'on ne les perde pas par un changement de pratique des éleveurs.
Concrètement, quelle est votre action à vous ?
Alors, nous, on les encourage sous deux formes. On organise un concours prairie fleurie. On a commencé en 2010 et donc on le fait tous les ans. Et puis, on a aussi une action via des mesures agro-environnementales qui sont des contrats entre l'État et l'agriculteur pour 5 ans. Et nous, on a fait en sorte que ce dispositif existe et que les agriculteurs puissent contractualiser pour 5 ans de manière à maintenir ces prairies fleuries. Voilà les deux actions. Alors le concours prairie fleurie 2015, par exemple, va avoir lieu sur la Gervanne, donc en partant de Léoncelles jusqu'à Beaufort-sur-Gervanne, et la vallée de Quin. Là, avec la Chambre d'agriculture et l'Association des agriculteurs du parc, on va faire en sorte à ce qu'il y ait un certain nombre d'agriculteurs qui proposent des parcelles, et puis pendant deux jours, les 9 et 10 juin, le jury, qui sera composé d'un agronome, donc en principe c'est la Chambre d'agriculture de la Drôme, mais également d'un botaniste, et là on fait appel à l'Institut, l'anciennement Semagref, IRSTEA, et également un apiculteur pour regarder l'aspect mellifère de ces prairies, pour que tout ce jury regarde les différentes parcelles et fasse son classement. Ce qui fait que on donne ensuite un premier prix, deuxième prix, troisième prix, et le premier prix, son dossier est constitué à partir de photos et d'un argumentaire du jury. Il concourt au concours national patronné par le ministère de l'Agriculture.
Quelles sont les pratiques respectueuses de la biodiversité que vous essayez d'encourager grâce à vos actions ?
Alors, les éleveurs ont besoin de fourrages qui nourrissent leurs animaux, mais qui aussi leur permettent de produire, que ce soit du lait ou de la viande. Et par conséquent, ils recherchent un optimum de valeur alimentaire. Si ce n'est que quand on recherche cet optimum de valeur alimentaire, on peut être tenté de faucher très tôt. Alors il est bon, et c'est ce que la plupart des éleveurs font, de faucher une partie de leur surface en prairie tôt pour faire cette valeur alimentaire, mais ils ont aussi des prairies qu'ils fauchent beaucoup plus tardivement, et elles ont souvent un intérêt, c'est qu'elles donnent ce qu'on appelle de la fibre pour bien faire ruminer ces ruminants, et c'est dans ces prairies fauchées plus tardivement que l'on trouve ces fleurs. Donc, ce que l'on souhaite, nous, c'est que les éleveurs continuent d'avoir ces pratiques-là en leur montrant que c'est aussi dans leur intérêt de ne pas faucher tout précocement et donc de les conforter dans leurs pratiques qui permettent de maintenir ces prairies fleuries.
Si vous ne les aidiez pas, ils auraient tendance à faucher plus tôt.
Ça peut être une dérive. Ça ne l'est pas trop puisqu'on en trouve encore beaucoup. Mais il faut qu'on s'assure à ce que derrière, ils maintiennent ces pratiques. Et c'est pour ça que la Chambre d'agriculture joue le jeu avec nous, parce que d'un point de vue technique, d'un point de vue alimentaire, c'est aussi important. Donc des fois, on peut être tenté de dire ou de percevoir « mais il fauche trop tard, ça n'a plus de valeur ». Bon, il est bon de conforter ces pratiques en disant bah, « d'avoir une partie de ces prairies fauchées plus tardivement, ça a aussi un intérêt pour l'élevage ». Parmi toutes ces plantes, il y en a certaines qui n'ont qu'un intérêt mineur en termes de valeur fourragère pour les troupeaux, mais certaines ont des valeurs mellifères, donc c'est bien pour les insectes pollinisateurs. Certaines ont aussi des valeurs aromatiques qu'on peut retrouver dans certains produits, mais certaines ont aussi un pouvoir médicinal. Et quand on observe des animaux au pâturage, on se rend compte que ces animaux varient leur bol alimentaire. Elles arrivent même à brouter certains arbustes à certaines époques. Et parmi les fleurs, c'est pareil. Il y a des fleurs qu'elles vont éviter. Par exemple, la renoncule acre, quand on le regarde, on les enlève de leur pâturage, elles restent. Par contre, toutes les autres, la plupart, elles sont mangées. Donc ça veut dire qu'elles y trouvent leur compte. Et qu'en variant leur bol alimentaire, puisque chaque plante a un peu sa composition, eh bien, ça contribue à une bonne rumination dans leur estomac.
Est-ce que les agriculteurs du plateau du Vercors sont sensibles à vos arguments et qu'ils vous suivent naturellement ?
J'ai l'impression que petit à petit, ça passe, mais à condition qu'on leur apporte des éléments un peu techniques. D'où l'importance d'associer dans nos travaux des conseillers techniques des animaux, que ce soit les gens du contrôle laitier qui donnent des conseils aux éleveurs ou la Chambre d'agriculture, en l'occurrence la Chambre d'agriculture de la Drôme, qui sera présente cette année. Si le parc du Vercors était seul et n'avançait que l'argument des petites fleurs, les éleveurs peuvent y être moins à l'écoute. Alors que quand on parle des petites fleurs, parce que les éleveurs ne sont pas non plus des massacreurs, ils sont aussi attentifs et sensibles à la biodiversité, si en plus on donne des arguments techniques, ils sont d'autant plus à même d'écouter et de percevoir les choses différemment.
Arguments techniques et peut-être aussi bonus financier, non ?
Alors le bonus financier, il est vrai que maintenant on a des mesures agro-environnementales qu'on appelle des MAEC, parce que C ça veut dire également climatique, et on s'est mis en ordre de marche au niveau du parc du Vercors pour que ces subventions puissent exister et donc mises à disposition. C'est totalement volontaire pour les agriculteurs et il est vrai que si en plus ils ont vu l'intérêt de biodiversité, ils ont vu l'intérêt pour leur troupeau, mais qu'on les encourage avec une petite aide financière de 66 euros à l'hectare, tant mieux, c'est un plus. Mais c'est une reconnaissance du travail qu'ils font et c'est pour encore les encourager dans ce sens. Donc c'est un outil supplémentaire à nos dispositions qu'on essaye de mettre en œuvre.
Alors, Monsieur Langlois, on parle souvent d'écosystème global. Le fait que, grâce aux actions du parc, ces prairies fleuries persistent, est-ce que ça a un impact sur le reste de la biodiversité du plateau du Vercors ?
Le fait que les éleveurs gardent ce genre de prairies riches en fleurs, effectivement, ça joue sur un écosystème beaucoup plus large, puisque s'il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup plus d'insectes. S'il y a plus d'insectes, donc il y a beaucoup plus d'oiseaux. Et on sait aussi que les insectes sont pour partie pollinisateurs et permettent la pollinisation de plein de choses, y compris dans le domaine agricole, mais pas uniquement. On sait aussi que dans ces prairies qui ne sont pas retournées, on a aussi tout un règne animal, insectes, mais aussi mammifères, micro-mammifères, qui tournent autour. Donc ça a un impact beaucoup plus large que simplement les insectes, les fleurs et le fourrage.
Est-ce que vous pensez que vous avez assez de moyens pour mener ces actions pour valoriser ces prairies fleuries ?
Je dirais que c'est en fonction du temps qu'on se donne ou qu'on a la possibilité de passer à ces actions. Je crois que le concours prairies fleuries, ce n'est pas une dépense énorme en tant que telle, c'est du temps à consacrer, donc indirectement une dépense, et c'est de la persuasion, de l'explication. Donc si on me donne la possibilité de consacrer du temps à cela, c'est déjà pas mal. J'estime qu'en plus avec les aides de l'État qu'on peut mobiliser, notamment sur Natura 2000, avec ça, on a les moyens de faire prendre conscience et d'accompagner les agriculteurs au mieux.
Monsieur Langlois, je vous remercie pour votre participation à cette émission. Je souhaite une bonne continuation.
Merci à vous.
Au revoir.